Cube Radio. Acteur de changement, il est tourné vers l'innovation. Il ne se contente jamais de peu. Il pousse l'information dans les moindres détails. Guillaume Lavoie.
Bonjour, merci d'avoir choisi Cube Radio. C'est véritablement une nouvelle qui se répercute un peu partout. C'est cette idée, et on va en parler avec le maire de Saint-Lin-des-Laurentides, qui se rebelle un peu contre cette espèce d'impulsion d'inclinaison naturelle, qu'il faut toujours aller vers plus de dézonage, surtout des terres agricoles. Et il y a là-dedans des fondamentaux ou des incitatifs malsains. Puis il faut les expliquer, c'est-à-dire, par exemple, les terres agricoles ont une valeur, mais souvent, cette valeur-là est explosée du moment où on va les dézoner pour en faire des terres pour construire du résidentiel ou du commercial. Alors, il y a une pulsion, il y a une attirance très forte vers un profit qui, des fois, peut être des multiples. Alors, d'un côté, il y a cette pulsion-là, mais la pulsion la plus malsaine, c'est celle de la fiscalité municipale, c'est-à-dire que les villes se financent essentiellement par la taxe foncière. Une terre agricole, c'est pas très, très payant pour une ville. C'est toujours plus payant de dézoner et là de construire dessus des commerces et des maisons, et ça, à court terme, va augmenter les revenus de la ville. Et il y a une extraordinaire hypocrisie dans le discours politique au Québec, c'est-à-dire qu'on se vote des plans ou des schémas d'aménagement qui garantissent à la vie plus 20 ans le territoire vert ou le territoire agricole, et là on en fait des grandes annonces et des grandes déclarations, tout le monde se fait prendre en photo, et en catimini, à tous les mois, à chaque conseil municipal ou presque, à chaque rencontre d'élus, bien souvent on dézone un petit morceau ici, puis un petit morceau là, puis comment on fait pour manger une baleine au complet, bien on la découpe en tranches très minces. Et en grosso modo, d'un conseil à l'autre, d'une décision à l'autre, on est en train d'asphalter le Québec au grand complet. Et ce sont des gains court terme, il faut le comprendre, mais au prix de coûts long terme extraordinairement élevés, qui vont hypothéquer, d'une part. Il y a trois hypothèques absolument phénoménales. La première hypothèque, c'est la sécurité alimentaire. Plus je réduis le pied carré agricole au Québec, plus je diminue la capacité que le Québec a de se nourrir lui-même ou en portion. L'autre grande hypothèque, c'est une atteinte à la sécurité environnementale. C'est autant de pieds carrés de forêts, de milieux humides, de biodiversité qui disparaissent, un petit projet de développement à la fois. Et finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien que ça semble être une augmentation de revenus pour les villes à très court terme, c'est quelque chose qui met en péril notre sécurité économique, individuelle et collective, parce que tous ces nouveaux territoires-là qui avant n'étaient pas desservis, bien il faudra pour les desservir construire des routes, des infrastructures d'aqueduc, d'égouts, d'électricité, de transport, et ce sera plus compliqué et plus cher d'offrir du transport collectif, ou infiniment plus cher pour les citoyens qui y habitent de se transporter eux-mêmes. Et je rappelle au passage qu'au Québec, le premier coût des ménages québécois, c'est le logement. Le troisième, c'est la nourriture. Le deuxième, c'est le transport. Au Québec, la manière dont on organise notre territoire, ça coûte plus cher pour se transporter que pour se nourrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il peut y avoir des manifestations courageuses, rares mais courageuses, comme celle du maire de Saint-Lin, qui est absolument à saluer. Mais fondamentalement, ça nous prend deux nouveaux outils importants, qui sont des outils comptables. D'abord, de revoir la comptabilité du coût des infras qu'on construit. On pense souvent, quand on veut faire une route ou un projet X, Y, Z, on regarde combien ça va coûter pour le construire. Le vrai coût devrait être combien ça coûte pour le construire, pour l'entretenir, pour le remplacer, versus investir de l'argent pour rénover ce que l'on a déjà. L'autre outil économique qui nous manque, l'autre outil comptable qui nous manque pour alimenter correctement notre processus d'évaluation, c'est de calculer la valeur économique des infrastructures vertes. Combien ça rapporte économiquement une forêt? Combien ça rapporte en termes d'air plus pur, en termes de filtration de l'eau, en termes d'éviter des inondations ou des débordements des milieux humides. Si on est capable de chiffrer la valeur économique des infrastructures vertes, eh bien là, on n'aura pas un projet d'un côté qui semble créer des profits et un endroit où il n'y a pas de dépenses. On sera vraiment mieux capable d'évaluer les projets. Et au final, la grande politique nationale que je pense que ça nous prend se résume peut-être de la manière suivante. On ne construit pas si ce n'est pas déjà un territoire développé et desservi, ou dit autrement, on ne développe pas un territoire où il n'y a pas déjà des infras.
Cube Radio. Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Marie Montpetit, bonjour.
Bonjour, Guillaume.
Alors, Marie, fin de semaine avant la grande semaine, mais là, qu'est-ce qui devrait être sur notre radar politique là, pour le Québec?
Ben, écoute, bonne nouvelle. Les Québécois recevront leur nanane du gouvernement tout juste avant Noël. Donc, le gouvernement Legault a confirmé, si on se rappelle, il avait parlé, il a annoncé il y a quelques semaines que les Québécois recevraient des chèques de 400 ou 600 $ dépendamment en fait du revenu évidemment que les gens ont là. Donc ça va de gens qui ont un revenu de moins de 50 000 $ vont avoir une aide ponctuelle de 600 $ ceux qui ont entre 50 000 et 100 000 vont avoir droit à un montant de 400 $ puis après ça c'est régressif jusqu'à 104 000 et donc ça va arriver avant Noël. Les citoyens n'ont pas de démarche à faire pour obtenir ce genre d'aide financière là. Ça va être versé directement par dépôt direct ou par chèque pour les gens qui ont fait leur déclaration de revenus 2021. Donc, c'est ça, c'est le Père Noël qui passe un peu avant le temps.
Oui, alors là-dessus, évidemment, ça n'aurait pas été la mesure que je pense qu'on aurait dû mettre en place, mais il faut reconnaître que le gouvernement est tout à fait légitime, il a été massivement élu pour ça. Ma seule petite... mon petit espoir, Marie, c'est que même si d'un côté, on imagine que cet argent-là va contribuer, va revenir un peu dans les coffres du gouvernement qui va se payer dans les taxes à la consommation, mon grand-père disait toujours, qui paye ses dettes s'enrichit. C'est peut-être le temps de prendre cet argent-là, pas juste pour faire face à des nouvelles dépenses, mais essayer de réduire les dépenses de dette et d'endettement, surtout l'endettement à court terme, parce que avec les nuages gris à l'horizon, ça, c'est peut-être quelque chose qui devrait nous préoccuper. Mais j'imagine qu'avec Noël qui arrive, il y a toujours des petites dépenses de plus. Les Québécois devraient sans doute être heureux de ce chèque-là. En tout cas, c'était leur espoir quand ils ont voté aux dernières élections, là.
Ben c'est sûr, c'était ce que François Legault s'était engagé effectivement, qu'on soit d'accord ou pas avec la mesure. François Legault, faut reconnaître ça, s'est engagé avec cette promesse électorale-là et il la respecte. Je pense que dans un contexte justement où tout a augmenté, l'épicerie a augmenté, tout coûte cher, là, je veux dire, faut en convenir. Je pense que les gens seront certainement heureux et je ne crois pas, moi, qu'on va se retrouver dans un contexte que ça avait été souligné là, de dire que, ah mon Dieu, les gens vont aller faire des dépenses. C'est justement, là, on est justement le vendredi noir, donc parlons-en, que les gens vont se servir de ça pour toutes sortes d'achats farfelus ou de luxe. J'ai l'impression que ça va vraiment venir soutenir, justement, pallier des augmentations, comme on l'a dit, que ce soit sur la nourriture, sur le quotidien, tu sais, donc ce sera certainement bien reçu, là.
Bon, alors on va prendre ça comme une bonne nouvelle, puis peut-être pour résister à la tentation de dépenser déjà, surtout aujourd'hui au Vendredi fou, un chèque qui n'est pas encore arrivé. Et là, ça va être, il y en a qui vont devoir peut-être éviter d'avoir ce faux sentiment de richesse. Portons-nous, Marie, du côté judiciaire. Il y avait une nouvelle importante qui a été annoncée par le gouvernement du Québec aujourd'hui, notamment sur le jugement de la Cour supérieure par rapport aux interpellations supposément aléatoires. Là, fais-nous le portrait de ça un peu.
Oui, écoute, très important ce point de presse-là tenu par les ministres Bonnardel et Skeet. On se rappellera que le 25 octobre dernier, le juge Michel Yargeau, dans le fond, avait rendu une décision pour interdire ce qu'on appelle les arrestations aléatoires. Donc, permettre à un policier sans motif de procéder à une arrestation pour toutes sortes de raisons. Et il avait dit à l'époque que ces interdictions interception-là, routière sans motif, reposait sur, c'était très sans appel, là, son commentaire sur des préjugés plus ou moins conscients des billets qui étaient associés à la couleur de peau des automobilistes. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui avaient salué cette décision-là en disant que les policiers peuvent avoir certains biais et que les personnes qui sont racisées, qui sont de couleur, se retrouvent statistiquement être beaucoup plus souvent interceptées que des gens, par exemple, avec la peau blanche. Et là, aujourd'hui, donc finalement, le gouvernement Legault est venu annoncer qu'ils vont contester ce jugement parce que, selon eux, ça empêche les policiers de faire leur travail. Puis là, la ligne, elle est mince, hein, parce que là, on entend déjà les oppositions officielles, les oppositions à Québec qui déchirent leur chemise, qui disent que le gouvernement de François Legault s'enfonce dans son racisme systémique en allant de l'avant, dans le fond, avec cette contestation-là. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même, somme toute, assez équilibré, ce qui a été présenté par M. Bonnardel et M. Ski, qui est responsable du dossier du racisme, où ils sont venus dire, écoutez, d'un, il faut que les policiers puissent faire leur travail, il faut que les policiers puissent procéder, justement, à des interceptions aléatoires quand ils ont des doutes, peu importe, mais ceci dit, ils conviennent qu'il y a d'autres enjeux et ils se disent qu'ils vont revoir la loi sur la police, qu'il va y avoir de la formation continue qui va être donnée aux policiers, entre autres sur la question de la discrimination, sur le profilage racial, justement pour s'assurer qu'on ne fasse pas fi de ces enjeux-là qui existent vraiment. Là.
Oui, parce qu'on voit que c'est pas exactement, parce que là, les répliques de l'opposition me semblent je pense que s'ils étaient au pouvoir, je suis pas sûr qu'ils déchireraient leur chemise autant, parce que c'est presque une pression généralisée ou une demande généralisée de plusieurs services de police. Même le nouveau chef de la police de Montréal, ou celui qui est désigné, là, M. Fadi Daguerre, disait que lui était d'accord avec l'appel, qu'il le soutenait. Enfin, ici, c'est un enjeu sur, il faut pas mélanger les sentiments généraux qui sont visés par le jugement, ou plutôt par cette idée qu'il faut cesser là, d'interpeller à la gueule du client ou à la couleur de la peau du client, mais que l'interpellation est un outil nécessaire pour que les forces de l'ordre puissent faire le travail. Alors, ça va être intéressant de voir, justement, où est-ce que ça va atterrir à la fin, parce que les policiers ont besoin d'outils pour faire leur travail. Est-ce que tu penses, est-ce qu'il aurait été possible d'envisager, est-ce que d'autres chefs de police, tu penses, vont sortir publiquement là-dessus?
Il est très possible qu'ils prennent la parole. Je pense qu'ils avaient été plutôt discrets, justement, quand il y avait eu le jugement, mais avaient quand même, discrets, oui et non, parce qu'ils avaient quand même souligné à quel point, justement, ça devenait difficile pour eux de faire leur travail dans certaines circonstances. C'est ce qu'il faudra voir dans les prochains jours, mais moi, je serais pas surprise, effectivement, que d'autres corps de police soulèvent cette bonne décision, cette bonne initiative du gouvernement du Québec, parce que c'est sûr que de leur côté, ça les aide, mais je pense que de l'autre côté, ils devront convenir qu'il y a un travail qui est à faire. On ne peut pas faire fi de cette réalité qui est le fait que les gens racisés, de façon générale, se font plus arrêter dans des arrestations, dans des interceptions aléatoires. Donc là, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Là.
Bien dit. Marie, mon petit, merci beaucoup. Mon plaisir.
Merci, Guillaume.
Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde dans tous ses états.
Alors, c'est pas un vendredi ordinaire, c'est un vendredi fou, cette idée d'acheter des choses. Et plusieurs compagnies, les plus importantes, s'arrangent pour sortir des produits lorsqu'il y a des rendez-vous de consommateurs importants. Et là, restez avec moi, et vous allez voir, il y a les jouets les plus populaires au monde, c'est les Lego. Et bizarrement, vous allez voir que Lego s'est tourné pas uniquement vers les enfants, mais de plus en plus vers les grands-enfants. Alors, des fans adultes des Lego. Et justement, pour en parler, Simon Castonguay, qui est chef de pratique pour le Québec, pour Willis Towers, est notamment un fan adulte de Lego. Bonjour, Simon.
Allô, Guillaume.
Alors, vous allez pouvoir dire à vos collègues que votre expertise est finalement reconnue.
Alors, avant c'est que très, les... C'est très vrai, mais oui. Mes collègues, mes clients, toute la communauté qui gravite autour de moi connaît ma passion pour les Legos. On peut possiblement dire que c'est une expertise, ouais.
Alors, avant que tout le monde dise qu'on est deux geeks et on est les seuls au monde à trouver qu'il est normal d'être des adultes et des Legos, aimer les Legos, faites-nous le portrait un peu d'abord du niveau de popularité des Legos auprès de cette relativement nouvelle clientèle que sont les adultes, là.
En fait, nouvelle, c'est intéressant parce que j'ai commencé à faire des Legos à l'âge de mes enfants. Mes enfants ont 4 et 9 ans. Puis un peu comme toute la vague de nostalgie, on comprend qu'il y a beaucoup de compagnies qui reprennent le bâton quand ces jeunes-là deviennent plus vieux. Puis ils ont évidemment un peu plus de moyens. Fait qu'il y a une vague que moi j'ai constatée depuis peut-être une quinzaine d'années. Puis on l'a bien dit, là, les fans adultes de Lego, en anglais les AFOL, A-F-O-L, Adult Fan of Legos. Et Lego a compris qu'il y avait là un marché, il y a de l'argent, il y a des gens qui ont des moyens. Il y a une complexité, évidemment. Les modèles sont beaucoup plus gros, sont massifs, sont complexes, prennent du temps à faire. Et j'imagine, si j'étais Lego, je me dirais, c'est payant aussi. Les marges doivent être pas pires là-dessus. Donc, au fil des dernières années, on a vu une montée assez fulgurante du nombre de modèles qui s'adressent réellement aux adultes. Puis il y a l'âge sur les boîtes, là, on le voit 16 ans et plus, puis même, je vous dirais, il y en a moi-même, j'ai plus que 16 ans, évidemment. J'ai
là, Simon, donnez-nous un ordre de grandeur là, quand on dit « big toys for the boys ». En termes de nombre de pièces, de dollars, là, c'est pas exactement là, des petits cadeaux, là.
Non. Lego, un peu comme Apple, a décidé que le prix, ça faisait partie de la game. Si tu veux des Lego, tu vas payer. C'est correct. J'ai fait récemment le Titanic, que certains auditeurs ont peut-être vu dans les vitrines des Lego Stores, qui fait un bon 4 pieds de long. C'est 9000 morceaux. Ça se détaille à 1000$ environ. Je veux dire, on est ailleurs. Là, on n'est plus dans le petit vroom vroom là de 23 pièces qu'on trouve en pharmacie là, c'est un autre niveau. Prochainement il y a la Tour Eiffel
qui sort aujourd'hui là, la Tour Eiffel qui va mesurer combien de haut à peu près une fois qu'elle est construite?
1,49 m, ça fait 5 pieds de haut. c'est ridicule. Évidemment, puis là bon, j'espère que ma femme n'est pas à l'écoute. Ça crée des chicanes à la maison, parce que moi, j'en ai plein.
Et là, pour expliquer les chicanes...
C'est ma thérapie.
Pour en parler, les chicanes...
Et c'est les mettre en quelque part, ces Legos-là.
Et là, pour en parler de manière parfaitement non-partisane, il y a des gens avec qui souvent on est mariés qui ne comprennent pas bien cette passion pour les Legos et qui disent « t'en as déjà plein, il n'y a plus de place où les mettre, ça coûte cher ». Alors il y a un côté qui libère l'esprit, mais qui en même temps met une certaine pression sur le couple.
Ça libère clairement pas l'espace. Parce que moi, mes Legos, je les fais, je les garde. Avec la pandémie, j'étais un peu tanné d'avoir un fond derrière moi, un mur aveugle qui est absolument pas sexy. J'ai monté des tablettes, j'ai mis quelques-uns de mes modèles derrière moi. C'est pour ça que mes clients, mes collègues, tout le monde sait que je fais des Legos. Et franchement, ce qui est toujours surprenant, puis ce qui m'étonne encore, c'est que peu importe à qui je parle, des présidents de compagnie, des chefs des finances, de multinationales cotées en bourse, qui voient le Lego derrière moi et me disent « Ah, moi aussi je fais des Legos ». Et c'est surprenant, je serais curieux si on faisait un sondage puis qu'on allait voir quelle est la vraie proportion des gens qui peut-être en cachette, en fond, activement ou pas, mais clairement sont des adeptes de près ou de loin.
D'ailleurs, on le voit quand on arrive dans les boutiques Lego, il y a comme un petit morceau qui est réservé pour les enfants, qui est comme l'excuse pour pouvoir dire « j'y vais pour le petit ». Mais tout le reste, ce sont soit, par exemple, la série Star Wars, le Titanic, la Tour Eiffel, la série Architecture. Et là, c'est des centaines et des centaines de dollars par jeu de Lego, là.
Absolument. C'est des centaines d'heures, c'est des dizaines d'heures de construction. Les plans, je veux dire, les livres les plus épais de ma bibliothèque maintenant, ce sont des plans de Lego, croyez-le ou non. C'est rendu très compliqué, très long. Des centaines d'étapes. Mais ce qui me fascine aussi, c'est que, bon, si mal m'en prenait puis je défaisais mes modèles, le génie que je trouve de Lego, c'est que depuis le premier bloc en 1958, qu'on peut stacker ou imbriquer avec un autre bloc, le modèle n'a jamais changé. Donc, tous les 600 milliards de blocs de Lego qui existent en ce moment dans le monde sont tous compatibles. Et ça, c'est du génie pur. Et donc, il n'y a pas ce phénomène qu'on voit souvent d'obsolescence programmée où le modèle a changé, il faut que je le remplace. On connaît ça avec nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures. Pas les Lego. Ils ont fait le pari de faire un système qui allait exister dans le temps sans jamais changer. Et c'est génial.
Alors, le premier argument, c'est chérie, j'achète pas des Legos, je contribue à l'économie circulaire. Poussons la logique économique voilà. Un peu plus loin. Et c'est une rumeur, moi j'espère qu'elle est vraie, que les Legos, c'est un investissement. Évidemment, expliquez-nous si ça se tient, ça, parce que j'ai besoin de ce genre d'excuses-là à la maison.
J'ai cherché ce genre d'excuses-là moi-même et je l'ai trouvé. En fait, c'est un article que j'ai lu il y a quelques, peut-être 2 ans maintenant, c'est dans Forbes Magazine, puis on positionnait que l'actif tangible, donc quelque chose qu'on possède là, qui prenait de la valeur le plus rapidement dans le temps, il n'y a pas si longtemps, c'était le vin de Bourgogne. Fait que si on avait une belle cave à vin pleine de bouteilles de vin de Bourgogne, on s'assoyait là-dessus, on trouvait un acheteur, puis on faisait un beau profit. Les Legos ont pris le dessus là-dessus. Donc, il y a vraiment des gens, et j'en connais, j'ai des amis, il y a des A-Force, des fans adultes, qui, à chaque fois qu'ils vont acheter une boîte de Lego, en achètent pas juste une. Ils en achètent 2, 3, 4. Ils en font une. Le reste, ils les gardent. Ils attendent que ça devienne discontinué. Ils les mettent en ligne sur les sites de revente et les profits sont vraiment impressionnants.
OK. Il y a des sites dédiés à l'achat de boîtes non ouvertes, là.
Absolument. Il y a des, c'est comme les cartes de baseball. Il y a des, si c'est pas ouvert, ça vaut plus cher. Si votre boîte est ouverte, ça vaut un petit peu moins cher. Si Lego a déjà été construit, défait, remis dans des sacs Ziploc, évidemment, ça a une valeur marchande qui sera pas équivalente à une boîte neuve. Mais il y a tout un univers et une industrie autour du marché secondaire des Lego qui est une mine d'or en soi. Moi, j'ai des clients, des collègues avec qui je parlais, encore cet été, qui découvraient, puis on découvrait en parlant que ce sont aussi des fans de Lego, où on me disait « Ah, mon fils a gardé ses boîtes de Lego, c'est le modèle de l'espace des années 80 ou des vieux modèles discontinués depuis longtemps, les châteaux. » Puis là, je me disais « Mais envoyez-moi des photos, je vais vous trouver en ligne combien ça vaut aujourd'hui, vous seriez surpris. » Et c'est vraiment impressionnant. Des modèles qui étaient quelques dizaines de dollars il y a quelques années, qui sont discontinués, donc qu'on peut plus retrouver sur les tablettes de Lego Store, ont doublé, triplé, quintuplé de valeur et littéralement, il y a des gens qui vont être prêts à payer très cher pour acheter ça. Moi-même, j'ai acheté du marché secondaire à 30 à 40 de plus que le prix affiché avant la discontinuation du modèle.
Alors là, on découvre que vous pouvez fouiller dans vos affaires. Si vous n'êtes pas un fan de Lego vous-même, on réglera votre problème une autre journée. Mais vous pouvez mettre en vente ce que vous avez dans vos sous-sols. J'ai une grande question pour vous, Simon Castonguay. Mm-hmm. Est-ce que c'est possible d'être un fan adulte de Lego, de s'intéresser à des modèles qui coûtent des fortunes, qui prennent de la place à la maison, et de conserver un mariage heureux? Ça, y a-t-il des instructions pour ça dans la boîte?
Ah, en fait, c'est comme n'importe quelle question sur le mariage. C'est de la communication, le compromis.
Donc, il n'y a pas de solution.
Trouver une façon de faire un peu de place pour mettre des Legos. Il y a des Legos qui sont d'ailleurs très jolis. Je parlais du Titanic, c'est une œuvre d'art en tant que telle. Lego maintenant a même positionné certains modèles comme étant une manière de décorer la maison. Donc, vous avez une table à café, vous avez un espace horizontal. Ben, il y a des gens qui vont utiliser le Lego comme décoration, carrément. Donc, ça peut être une façon de réconcilier la beauté et le plaisir qu'on a à faire le modèle aussi.
Bon, si vous aviez un modèle à recommander aux gens de la tour Eiffel qui sort, des fois la construction est un peu répétitive, quel est le modèle qui, de tous ceux que vous avez fait, là, qui existe encore, qui offre, là, je dirais, une valeur intéressante? Le Titanic se chiffre souvent parmi les expériences de construction les plus jouissives. C'est un beau modèle, c'est une belle décoration dans la maison. Mais ils sont même aussi lancés dans les voitures de collection, là. Ferrari, oui. Bugatti, ce genre de construction-là. Là.
Absolument, qui est une autre méthode de construction, qui sont les techniques. Donc, on n'est plus dans les blocs qu'on empile, mais dans des tiges, puis des pinouches là, qui rentrent les unes dans les autres. Donc, un peu différent, pas mal plus compliqué aussi. Mais pour répondre à la question, je dirais, moi, j'ai beaucoup aimé la voiture de James Bond. Puis en termes rapport plaisir, qualité-prix, le prix est tout de même raisonnable. On n'est pas dans des modèles à 1000 $. La complexité interne était très intéressante. Puis je vais dire aux gens que on pense aux gens qui font des mandalas, là, des petits dessins, des mots croisés, de la peinture, une petite tâche manuelle qui permet de se libérer l'esprit. Ben les Legos rentrent dans cette catégorie-là. Moi, je considère que c'est aussi une thérapie. Puis c'est pas la complexité du modèle ou sa grandeur ou le fait qu'elle est si extraordinaire qui fait l'intérêt. C'est vraiment le temps passé à empiler des pièces, à lire le plan ou pas lire le plan. On peut faire aller son imagination. Mais c'est un moment de recueillement, je dirais, qui est très, très zen.
Belle Donc, thérapie. Remettons ça dans son contexte. Chérie, ça a une valeur thérapeutique. Chérie, je contribue à l'économie circulaire. Chérie, j'investis. Finalement, ça fait plein de sens. On va vous souhaiter, à vous, être capable de continuer dans cette passion des Legos et un mariage en santé. On va se le souhaiter à tous. Mais merci de nous avoir partagé ça. Mais ce que je retiens, c'est que le jouet le plus populaire au monde, Lego maintenant, s'adresse beaucoup aux adultes. Finalement, c'est plus juste des petits jouets pour les enfants. C'est une véritable industrie pour des passionnés avec les poches profondes. Simon Castonguay, Absolument. Chef de pratique pour le Québec chez Willis Towers, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis profitez des Legos.
Merci beaucoup.
Passionné d'histoire, il raconte l'information du monde d'hier à aujourd'hui, une page à la fois. Guillaume Lavoie.
Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté.
Bonjour Luc.
Ouais, bonjour Guillaume.
Alors Luc, on va parler, on pourrait presque appeler ça chronique du jour le plus long, le 6 janvier. Alors le rapport, est-ce que le rapport s'en vient là? Ça fait longtemps qu'on l'étudie là, ce qui s'est passé le 6 janvier.
Voilà, c'est intéressant parce que le risque d'être tabletté ensuite par les Républicains, on sait qu'à partir du mois de janvier, on va donc faire siéger les nouveaux élus de la Chambre des représentants, on va asseoir également les nouveaux sénateurs, mais la majorité ne sera plus démocrate. Donc, on est à peaufiner, fignoler un rapport qui, semble-t-il, a atteint maintenant les 1000 pages. Parmi les informations qui émanent autour de ce rapport final, il y a le fait que Mme Cheney, qui est une des deux républicaines sur le comité, une des deux seules républicaines, en fait, sur ce comité-là, a insisté pour qu'on en rajoute un petit peu plus sur Donald Trump. Il semble finalement qu'on soit proche d'une obsession sur le cas de M. Trump dans ce rapport sur le 6 janvier. En même temps, au-delà de la fascination ou de l'insistance de Mme Cheney pour M. Trump, on semble être content au sein du comité de l'étendue de l'information qu'on est parvenu à fournir. Au-delà de la partisanerie politique, au-delà de la récupération qu'on fera ou pas de ce rapport, il y a des faits, des preuves vérifiables, finalement, de l'implication, bien sûr, des gens qu'on a vus à la télévision, là, tous un peu hébétés quand on a attaqué le Capitole, mais aussi de membres de l'équipe de Donald Trump et de Donald Trump lui-même. Alors, il semble qu'on soit satisfait, ne serait-ce que de ça, l'ensemble de la preuve, l'ensemble aussi des témoignages qui venaient, qui concordaient, de gens qui affirmaient la même chose. Et dernière chose à rappeler pour le bénéfice de nos auditeurs, faut rappeler que si, bien entendu, du côté républicain, puis on a un peu raison, les démocrates font du chemin avec ça, puis ont tenté de nuire à M. Trump, reste que ce qu'on a entendu pendant cette commission-là, ce sont des témoins républicains ou des membres de l'administration. Et donc, Luc, on n'a pas entendu de démocrates témoigner.
Non, oui. Ils ont témoigné sous serment. Là on n'est pas dans « j'ai entendu dire que », là. Ça veut dire sous serment, donc sous peine criminelle, si jamais on réalisait qu'ils n'avaient pas dit la vérité. Là. Alors, tu fais bien de le mentionner, c'est des républicains qui ont détaillé la chose.
Voilà. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'on sait que ce comité-là, finalement, c'est un peu comme une procédure de destitution. C'est à caractère politique d'abord et avant tout. Mais on sait que M. Garland aux États-Unis vient de nommer un procureur spécial indépendant qui enquête, entre autres choses. On le sait, il y a ces fameux documents de Mar-a-Lago, ces documents classés secrets, entre autres. Mais on sait qu'il va aussi cautionner potentiellement, là, le procureur spécial indépendant, des accusations contre M. Trump dans le dossier du 6 janvier. Il y aura des vases communicants quelque part. Si on parle de témoignages et de preuves, il y a des choses qu'on a assurément enregistrées du côté du département de la justice aux États-Unis.
Oui, puis on va voir un peu. C'est peut-être une des rares fois, Luc, où un congrès aura fait autant de bruit jusqu'aux dernières minutes de son existence avant que la nouvelle vague arrive. Et ça, c'est assez fascinant.
Mais écoute, les passionnés de politique américaine savent habituellement, quand on parle d'un président à la fin de son mandat ou encore du congrès en fin de mandat, on les qualifie, l'expression consacrée, c'est « lame duck », c'est les canards boiteux. Je trouve que le canard court quand même assez vite au moment où on se parle.
Oui, surtout Trump doit trouver que ça va-tu finir par finir ce fameux mandat de 2 ans.
Oui, voilà.
dans la série des anniversaires, il y a celui du mémorial de la guerre du Vietnam. Et, ouais. Et parle-nous, si les gens ne sont pas allés le voir à Washington, c'est un monument très différent des autres dans la série des monuments militaires. Il est marquant. Et là, parle-nous un peu de ce qu'il représente et le genre d'anniversaire là, qui est célébré ici.
Voilà, donc faut savoir, hein, si on a visité Washington, avant d'investir des dollars dans des activités très coûteuses, ne serait-ce que parcourir l'ensemble du National Mall, c'est fantastique au plan historique, au plan architectural aussi. Et il y a, dans une portion de ce monument, à partir du monument de Washington jusqu'à celui d'Abraham Lincoln, on a un grand nombre de monuments qui commémorent essentiellement des événements comme des guerres, des personnages. Il n'y a qu'un seul civil en passant, c'est Martin Luther King. C'est relativement récent comme monument. Et moi, la première fois que j'y suis allé, celui qui m'a ému le plus, c'est un monument qui a été fait en 1982, c'est celui du Vietnam. Et c'est très clair que la guerre du Vietnam, bien entendu, n'a pas laissé le même souvenir dans la tête des Américains ou dans l'imaginaire américain. Les soldats qui sont revenus du Vietnam n'ont pas été considérés souvent sur un pied d'égalité avec ceux qui ont servi en Corée, ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale.
On les a pas accueillis avec des parades, des drapeaux, des célébrations, là.
Voilà. Et moi, j'ai aimé beaucoup ce monument-là qui est, quand je dis émouvant, c'est que quand on arrive près du monument pour le Vietnam, on descend lentement, on a l'impression, pour que l'impression, on s'enfonce lentement dans le sol et on voit gravé, hein, dans la pierre, l'ensemble des noms des soldats qui ont perdu la vie pendant leur service au Vietnam. Et c'est, je trouve que c'est à échelle humaine et que ça force le recueillement quand on arrive là. Moi, je me souviens que c'était encore une pratique là, fréquente de voir des gens qui avaient perdu des proches dans la guerre du Vietnam se rendre avec une feuille de papier et un crayon, coller cette feuille sur le nom, hein, qui apparaissait sur la pierre et frotter avec le crayon pour le reproduire sur la feuille. Mais il y avait quelque chose de... C'était très humble en même temps et oui. Ça forçait le recueillement.
T'as raison, Luc.
Et on s'est dit à l'époque, c'est peut-être une nouvelle façon finalement de rendre hommage aux militaires. Il n'y a rien de... C'est moins qu'il y a quelque chose de glorieux que comme... Il faut se rappeler du sacrifice, de ce que ça représente finalement, ce conflit-là, mais le sacrifice d'un Américain pour la nation, quand la nation décide de l'envoyer au combat.
Parce que les grands champs de bataille, enlevons Gettysburg de l'équation, les monuments militaires, traditionnellement, c'est des choses glorieuses, hein? Le drapeau flottant au vent, la conquête de quelque chose. Là, tu fais bien de le dire parce qu'on a l'impression de s'enliser, de s'enfoncer, ce qui n'est pas une mauvaise analogie quand on parle de l'intervention américaine au Vietnam. Et il y en a, tu me corrigeras, je pense que c'est 54 000 noms qui sont gravés sur ce mur qui fait à peu près 500 pieds de long. Et c'est la guerre dans laquelle les Américains ont perdu le plus de gens à part la guerre de sécession. Donc, il y a eu plus d'Américains morts dans la guerre du Vietnam que dans la Deuxième Guerre mondiale ou que dans la Première. Et en termes de monuments militaires qui transmettent peut-être la peine ou le côté très sobre, très dur de la guerre, le seul équivalent que j'ai en tête, c'est en Europe, le monument canadien. Près de Vimy, où c'est l'espèce de mer.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Mais souvent, il y a ce côté un peu triomphal, hein, de la guerre, là, héroïque. Mais la guerre, c'est aussi des morts. Alors, on a pu inviter les gens, là, s'ils vont à Washington, je pense qu'il faut le voir.
Et je rappellerai aussi, Guillaume, pour compléter, tu vois, quand j'y vais, c'est avec mes étudiants. Et j'enseigne à de jeunes adultes de 17, 18, 19 ans. Et une des choses qui me rejoint à chaque fois quand tu dis c'est dur, c'est le sacrifice, tu viens de rappeler cette mère éplorée. Moi, je rappelle à mes jeunes, ce sont des gens de votre âge qu'on a envoyés au combat. La moyenne des soldats qu'on a fini par dépêcher au Vietnam, il faut rappeler, hein, c'est 500 000 hommes qu'on a envoyés au Vietnam, là, au plus fort du conflit. Ils avaient en moyenne 19 ans. C'est bien jeune pour aller au combat, c'est bien jeune pour y mourir, surtout dans un conflit qu'aux États-Unis, les soldats eux-mêmes ne comprenaient pas toujours. La guerre froide, c'était quelque chose de très abstrait. Pourquoi intervenir au Vietnam alors que l'ennemi est présenté comme étant les Soviétiques ou l'URSS? Ça a échappé bien souvent à des gens. Puis c'est le conflit dont on sort, on s'en est toujours pas remis en passant. Hein? Quand on est allé en Irak ou encore plus récemment en Afghanistan, on craint toujours un autre Vietnam. Et finalement, il a fallu l'Afghanistan quelque part pour trouver un équivalent au Vietnam dans le j'ai envie de dire, dans la psyché américaine.
Et tu fais bien, je le mentionne au passage, tu as raison, les soldats en moyenne 19 ans, et c'est ce qui avait amené un changement constitutionnel, un amendement constitutionnel aux États-Unis, parce que la majorité, le droit de vote, c'était 21 ans. Et là, on disait, si je suis assez vieux pour aller mourir au champ de bataille, je dois sûrement être assez mature pour voter aux élections. Restons dans les grandes traditions dans le psyché américain plus. C'est pas une fin de semaine ordinaire en fin de semaine. C'est le Thanksgiving, qui est vraiment, c'est une fin de semaine très agréable pour la famille, moins agréable si vous êtes dans la famille des dindons. Mais parle-nous un peu de ce mariage entre la tradition du Thanksgiving et la politique.
Écoute, si on avait le choix, moi, l'amateur de football en moi dirait parlons de football, tant qu'à parler fin de semaine du Thanksgiving. Ce que je trouve intéressant ces jours-ci, puis cette année en particulier, aux deux ans, les Américains sont en élection. Donc, pour les présidentielles qui impliquent aussi le Congrès ou encore pour les élections de mi-mandat. Et là, Thanksgiving arrive après une élection qui a été particulièrement animée, particulièrement mouvementée. Et on voit les animateurs de fin de soirée, les humoristes jouer un peu sur ce thème-là. Mais grosso modo, c'est « Allez-vous parler politique pendant le Thanksgiving? » C'est la fête familiale par excellence. Puis on a sondé les Américains. Donc, il y a le site Axios, que j'aime bien aux États-Unis, qui s'est associé à la maison, à la firme Ipsos. Et on est arrivé à un sondage dans lequel on a demandé aux Américains, allez-vous parler de politique? Et c'est drôle, il y a toutes sortes de données qu'on a là-dedans, mais il y a 77% des Américains qui ont dit, on parle de tout, sauf de politique. Mais il y a un certain nombre d'individus là-dedans qui disent, on n'aura quand même peut-être pas le choix. Moi, je vous réponds ça, qu'on parlera pas de politique, mais on est entre 30 et 40% à se dire, on va peut-être finir par arriver là, malgré tout. Et ils sont plus nombreux à vouloir éviter parler de politique cette année parmi les républicains que les démocrates. Ouais, donc, faut croire que les retombées de l'élection ont laissé un goût un peu plus amer aux républicains qu'aux démocrates dans le contexte actuel.
Oui, puis il y a des chicanes de famille des fois autour de la table quand on parle politique. Ça nous ramène à ouvrir les assemblées des bleus et des rouges chez nous. Mais aller voir le film, par exemple, Parfum de femme, on va être quelque chose qui va ressembler un peu à ça.
Oui, parfait. Exact. Très belle référence.
Luc, terminons sur, c'est peut-être ce qu'on dirait le bilan avant l'heure, hein, cette guerre en Ukraine. Ouais. Qui avait commencé en février. Donc, ça fait longtemps qu'on est engagé dans cette bataille de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une guerre d'invasion de la Russie en Ukraine. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que la Russie, malgré tout, là, on sait que ça ne marche pas du tout comme prévu, est-ce qu'elle a gagné quelque chose, à tout le moins jusqu'à maintenant, ou c'est pure perte, là, si on avait à tresser un bilan aujourd'hui?
Écoute, avant le conflit, quand on parle de la Crimée, par exemple, puis qu'on parle de la présence des Russes en territoire ukrainien, parce que ça reste toujours une intervention illégale, le fait d'avoir annexé la Crimée, on contrôlait à peu près 17 000 carrés de territoire en Ukraine si on se place du côté des Russes. On en est maintenant à plus de 40 000 carrés de territoire qu'on contrôle. Ça signifie qu'au-delà de la propagande dans les deux camps, au-delà de la récupération, quand on regarde les résultats, il y a l'état des troupes, mais quand on regarde les résultats, les Russes semblent avoir gagné une portion de territoire et ce qu'on prête de plus en plus comme intention aux Russes, c'est de s'assurer de ne pas perdre ces nouveaux acquis. Donc, on est autour du Donbass essentiellement. Donc, on dit, on a finalement, même si ça semblait beaucoup plus ambitieux au départ, puis qu'on avait une étendue de frappe et d'intervention qui était spectaculaire, qui m'ont personnellement, je suis pas gêné de le dire, surpris, grandement étonné, reste qu'au moment où on se parle, on a quand même effectué des gains. Quand on regarde ça du côté ukrainien, puis qu'on a un ami dont on commence à douter un petit peu, qui sont les États-Unis, les services de renseignement puis les militaires américains disent aux Ukrainiens, écoutez, vous pouvez continuer, puis on va être à côté de vous, hein, on va continuer à vous aider. On vous confère peu de chances d'arracher aux Russes ce qu'ils possèdent maintenant. Donc, est-ce qu'on va s'enliser dans ce conflit-là? Est-ce qu'on va dépenser, mais plus que dépenser, gaspiller, appelons ça comme ça, c'est triste, un capital humain? Ou si ce serait pas le temps pour vous d'aller vous asseoir autour de la table, vous êtes en position de force au sens où les Russes ne peuvent que se défendre au moment où on se parle. On n'envisage plus de progression ou d'attaque. Vous auriez donc la part belle de vous asseoir et de négocier. M. Zelensky a répété jusqu'à il n'y a pas longtemps encore.
Jamais
nous,
au grand
jamais. Nous, on va récupérer l'intégralité. Voilà, jamais au grand jamais. On va récupérer l'intégralité du territoire.
Mais c'est intéressant ce que tu nous partages là, parce que malgré que, en gros, Poutine avait dit « Donnez-moi 2-3 jours, puis je vais être installé à Kiev, là, ça va bien aller. » Encore aujourd'hui, la Russie contrôle plus de territoire qu'avant le début des hostilités. Alors, parce qu'il faut sauver la face du côté russe, ça fait partie des choses à considérer du côté russe. Alors, en gros, la grande question, c'est les fameux alliés de l'Ukraine, parce que ça prend pas juste des armes pour les aider. Voilà. C'est quoi, là? C'est quelques milliards de dollars par mois qu'ils ont besoin pour faire fonctionner le pays, pour payer les fonctionnaires, faire fonctionner les hôpitaux un peu. L'hiver qui s'en vient, qui va être très dur, c'est pas facile l'hiver en Ukraine, là. Est-ce qu'ils vont être capables de tenir? Et la grande question, c'est est-ce que l'Union européenne et les Américains vont dire « OK, allez-y, on est là jusqu'à la fin ». Et ça, ce ne sera pas des discussions faciles.
Non, il y a du réalisme politique et du réalisme économique qui va s'installer. Moi, d'abord, on se réjouissait ou on soulignait à tout le moins le fait qu'il y avait eu une belle cohésion de l'ensemble des partenaires depuis le début. Mais on sent que ça s'essouffle, on sent qu'il y a une certaine grogne. M. Zelensky peut exploiter pendant encore un certain temps la sympathie du public ou des populations dans les pays démocratiques. Reste que les gouvernements, ça grogne, ça commence à coincer un peu lors des discussions, des négociations. Les partenaires n'ont pas tous non plus les mêmes enjeux au moment où on s'assoit autour de la table. M. Zelensky va peut-être devoir à un moment donné considérer ça. Donc, que puis-je gagner? Est-ce que c'est réaliste de dire, comme je l'ai affirmé, mais à des fins aussi de jeu ou de guerre psychologique, est-ce que je peux vraiment tout récupérer? Ou si c'est pas le temps, justement, d'ouvrir une porte aux Russes en disant, grosso modo, les Russes ne perdent pas la face complètement et nous, on aura évité le pire pour l'Ukraine. C'est un peu ça dont on parle ces jours-ci.
Réal politique, on va aller relire Kissinger et Metternich pour savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Luc Laliberté, merci beaucoup. Au plaisir.
Bonne fin de semaine, Guillaume. Au plaisir.
Passionné d'art urbain, de boutons de manchette et de véloconomie, Guillaume Lavoie n'a pas fini de vous surprendre.
Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez maire d'une ville et que vous avez un territoire agricole et que tranquillement, il y a des pressions pour que ces territoires agricoles deviennent de plus en plus dézonés sur lesquels on va construire et qu'on apporte de plus en plus d'argent à votre ville. Historiquement, la majorité des élus municipaux disent toujours, ah ben finalement, c'est juste un petit morceau, on va le faire quand même, j'ai besoin des revenus, même si à très long terme, c'est quelque chose d'extraordinairement périlleux pour la collectivité. Très peu d'élus résistent à cette pression extraordinaire pour dézoner de plus en plus. Eh bien, des élus courageux, ça existe. Le maire de Saint-Lin-des-Laurentides, lui, le fait, Mathieu Maisonneuve. Bonjour, Monsieur le maire.
Bonjour, Monsieur Lavoie.
Expliquez-nous un peu d'abord quel était l'enjeu. Vous êtes arrivé en poste et là, vous êtes retrouvé face à un enjeu où il y avait des terres agricoles. C'est à peu près 1 km², là, grosso modo, là, 7 hectares, qui devaient être dézonés. Expliquez-nous l'histoire de l'enjeu au départ, là.
Mais je vous explique. Évidemment, moi, je suis rentré en poste aux élections du 7 novembre dernier, le 2021. Donc, ça fait un an et quelques semaines qu'on est en poste. Évidemment, plusieurs défis là, sont pointés le bout du nez depuis le début de ce mandat-là. Puis, nécessairement, là, ça nous a permis de nous intéresser à un défi quand même assez majeur pour l'avenir de Saint-Lin-Laurentides, qui est la construction d'un nouveau quartier commercial sur des zones agricoles. Donc, l'ancienne administration, les gens qui étaient à la MRC là, au courant des dernières années ont fait un travail qu'on appelle là, la révision du schéma d'aménagement, qui est un peu la Bible pour toute la région sur le futur de l'aménagement pour chacune des villes. Puis, le résultat pour Saint-Lin-Laurentides est que près de 10 hectares, là, en fait, c'est 7 hectares de terre en culture qui avaient été identifiés afin de dézoner puis de construire littéralement là, des immeubles commerciaux avec des stationnements. Et cet endroit-là est vraiment au nord de notre périmètre urbain actuel. Donc, ce qui a fait en sorte que nous, premièrement, en tant qu'élu de la MRC, j'ai eu la chance au mois de mai dernier d'assister à une présentation où je dirais que les chiffres qui avaient été présentés là, à l'ancienne garde ont été révisés. Puis je vous dirais qu'en fonction du simple calcul mathématique, des hectares disponibles sur le terrain versus les besoins anticipés de développement commercial au courant des 10-15 prochaines années, ben, à partir du mois de mai, j'ai déjà réalisé que l'inventaire actuel devrait suffire aux projections. Mais donc, là, de là est parti le processus de réflexion à savoir qu'est-ce qu'on fait, avec le plan qui avait été émis et accepté par le gouvernement provincial.
Mais là, monsieur le maire Maisonneuve, expliquez-nous un peu, parce que dans la réalité des faits, le municipal se paye sur le commercial et sur le résidentiel qui se construit, que le commercial soit plein ou pas, les taxes rentrent à pleine porte. C'est pas exactement une inclinaison naturelle, là. Habituellement, les villes veulent dézoner, ne serait-ce que pour l'appât du gain à très court terme. Où est-ce que vous avez trouvé la possibilité de développer un discours en disant « c'est un mirage, ça. Les coûts à long terme vont être plus grands. » Il faut éviter d'aller vers ça parce que c'est pas exactement la norme dans le monde municipal.
Vous avez raison. C'est pas la norme. Puis surtout, là, dans le monde municipal, la plupart des maires et mairesses le savent qu'un développement commercial, c'est payant, entre guillemets. C'est plus payant qu'un développement résidentiel parce que ça vient pas avec une obligation d'offrir autant de services. Mais d'où c'est venu, là? Pour moi, c'est important de faire les bons gestes. Puis, tu sais, présentement, là, vous, tu sais, dans votre introduction, vous dites que, oui, il y a des élus qui ont du courage. Puis, on lit, là, la couverture médiatique, puis ça semble être un geste radical. Mais à mon avis, c'est loin d'être une décision radicale, parce que quand on regarde les faits scientifiques, le réchauffement climatique, les changements climatiques, pardon, qui se transforment en urgence et en crise climatique, moi, je crois fermement que le modèle actuel devra changer un jour ou l'autre, que ce soit le modèle de financement ou que ce soit le modèle de l'aménagement du territoire. Et j'ai la ferme conviction qu'aujourd'hui, on a pris une bonne décision si on relève un peu le regard puis on évalue les retombées sur un horizon un peu plus loin, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Comme je l'ai dit, là, je suis persuadé qu'à long terme, la protection du territoire agricole va rapporter plus à la communauté que les relevés de taxes à court terme.
Monsieur le maire Maisonneuve, je disais d'entrée de jeu dans l'émission que ce qui nous manque comme instrument de décision publique, c'est un instrument comptable, d'être capable d'avoir une comptabilité de la valeur économique des infrastructures vertes. Combien ça rapporte un champ qui n'est pas construit? Combien ça rapporte un petit ruisseau qui ramasse des fois les débordements de l'eau? Combien ça rapporte une mini-forêt dans un coin qui n'a pas été dérangé? Et comme ça fait peu partie des discussions quand vient le temps de prendre des décisions, ben c'est comme si le projet, ça rapporte tant versus une terre qui rapporte à peu près rien. Dites-moi une chose, est-ce que ce serait envisageable ou souhaitable de penser une partie de la fiscalité municipale sur la base des terres qu'elle ne développe pas, qu'elle maintient en friche, qu'elle maintient en terres non développées, que ce soit des milieux humides ou des terres agricoles? Est-ce qu'il n'y a pas là une clé de voûte où le gouvernement du Québec aiderait financièrement les villes à, dans le fond, être capable de renoncer à l'extraordinaire carotte à court terme qui est le développement tout de suite, là?
En fait, c'est une nécessité. Moi, je suis ici, là, on est là à coup de 4 ans, ça passe vite. Vous l'avez dit, vous l'avez établi. Il y a un attrait financier à développer. Donc, nécessairement, là, si je suis là dans 4 ans ou dans 8 ans, peu importe, il n'y a rien qui empêche un prochain décideur de venir puis de changer ça. Parce que les règles actuelles, si on regarde uniquement l'intérêt financier, bien, ça paye, permettez-moi l'expression, de scraper des milieux humides, de scraper des zones agricoles, de scraper des zones, des milieux naturels pour aller dérouler des nouveaux quartiers. Donc, ça doit changer. Saint-Laurentide, aujourd'hui, là, on est à 14 % de milieux naturels sur notre territoire. Il y a 10 ans, on était à 20 % À combien on doit se rendre pour mettre la bonne valeur? Parce que pour une communauté, pour l'humanité, en fait, ça a une valeur, le ruisseau, le boisé, le milieu humide, l'endroit là où l'eau va aller percoler jusqu'à la nappe phréatique, ça a une valeur, mais en fonction des règles actuelles, ça rapporte pas grand-chose à une ville. Donc, dans le fond, ce que je suis en train de faire, c'est une profession de foi. Je crois en l'avenir, puis je suis persuadé que, dès aujourd'hui, chaque geste compte. Ça peut paraître audacieux, ça peut paraître courageux, mais moi, je pense que c'est en cohérence avec ce qu'on doit faire en l'avenir, et c'est en cohérence avec ce que la majorité, selon moi, la nouvelle génération des maires et mairesses pense.
Bien, d'abord, je vous félicite, Mathieu Maisonneuve, pour cette décision-là, et je pense qu'on va avoir besoin d'outils comptables pour venir chiffrer, créer des véritables outils de décision pour orienter notre évaluation des différents projets pour la suite. Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin-Laurentide, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Excellente fin de journée.
Au plaisir. C'est tout pour nous. Guillaume Lavoie qui vous dit merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio. Je veux remercier les chevilles ouvrières de cette émission, Marianne Bessette, Charlotte Duquette, Joanie Henry et André-Sylvain Latour. Merci à tous. Au plaisir de vous retrouver.
Cube Radio.